Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la clique numérique. Une heure pendant laquelle nous allons traverser la notion d'humanité numérique. Une fois de plus, je sais, vous vous dites, mais deux qui vont encore nous causer. Oui, non, je sais, mais là c'est vraiment différent. Je ne vais pas faire l'émission avant l'émission, mais vous verrez que nous allons surtout parler, pendant cette heure, d'une bonne idée, penser par nous-mêmes le numérique. C'est assez simple en fait, vous verrez. Parler d'humanité numérique, c'est aussi boucler pour nous un mini-cycle de 3 émissions après celui sur le climat en décembre et celle sur le transhumanisme en janvier. Pour ce nouveau numéro, nous avons invité Anthony Mazur, designer et auteur d'un essai Design et Humanité Numérique aux éditions B42 et Michael Crow, artiste transdisciplinaire. Nous serons sobres sur les chroniques puisque seul Thomas Ricordo nous éclairera de ses lumières. La prog musicale, en revanche, est bien assurée, comme toujours, par Fabrice Pompidou. Alors, pas de bon début d'émission sans présentation des invités, qui sont deux en l'occurrence. Anthony Mazur, tu es agrégé en arts appliqués et maître de conférences en design à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Tu peux m'interrompre si je dis des bêtises.
Tout va bien.
Nous avons eu le plaisir de te recevoir l'année dernière sur la clique consacrée aux imaginaires de la SF. T'en souviens-tu ? Oui, quand même.
Bien sûr.
Oui. Et tu reviens cette année car tu as écrit et publié récemment un ouvrage intitulé Design et humanité numérique, comme je disais dans l'intro. Et lorsqu'il est sorti en octobre, tu m'as dit, bon alors je viens quand parler à la clique, et ben je t'ai dit en février, et tu m'as dit ok. Donc voilà, qui est fait. Michael Crow, on te connaît un petit peu aussi dans la clique numérique, puisqu'on a entendu dans une émission un reportage sur ton travail réalisé par Sophie Charlotte Gauthier. Tu es artiste transdisciplinaire, chorégraphe, marionnettiste, plasticien.
Pas mal.
Ouais, pas mal. Ton travail s'inscrit dans le champ art-science, hein, je crois qu'on peut le dire. Et je crois que tu réponds avec tes œuvres à l'attendu de cette discipline que sont les humanités numériques, à savoir le croisement entre sciences sociales, sciences et arts, et puis rendre peut-être aussi sensible le monde en régime numérique. Alors du coup, je t'ai fait un SMS en te disant « Michael, il faut que tu viennes ». Et là, tu m'as répondu en me disant « Ok ». Avec un petit emoji pouce levé, je crois même. Alors, pour commencer l'émission, après cette espèce de petit descriptif des coulisses, on va peut-être partir de ce qui est finalement la base, à savoir une question toute simple. Qu'est-ce que c'est ? De quoi parle-t-on quand on parle d'humanité, des humanités ? Anthony, Anthony et Michael, c'est peut-être une adaptation du terme humanities en anglais. C'est quoi les humanités finalement ?
Oui, alors merci. Au risque de la simplification, on peut faire remonter ça à la Renaissance. On peut dire que c'est la période où l'homme devient un champ d'études et un champ de recherche. Et c'est là aussi où on redécouvre des textes antiques. Et donc tout ça est lié à l'exhumation de vieux textes qu'on va trier, classer, réorganiser. Et ça va faire progressivement différents champs d'études qui vont devenir après, dans le champ de l'enseignement, des disciplines.
Moi, j'aime bien parler aussi de la balise. La balise avec Diderot et l'encyclopédie au XVIIIe siècle. On se retrouve avec, effectivement, le sujet d'étude, l'humain. Et Diderot, en fait, une histoire que je connaissais pas et c'est quelque chose avec une collaboratrice qui s'appelle Frédéric Château.
Oui.
On a enquêté sur Diderot. Enfin, en tout cas, on voyait comment il y avait des résonances dans le travail qu'on pouvait mettre en place. Et en fait, il y a une chose, c'est que il avait pris l'habitude. Enfin, en tout cas, il avait dans ses études, pris l'habitude d'aller voir des spectacles en se bouchant les oreilles.
Ah oui.
Et pour voir, avec cette altération de la perception, comment l'œuvre pouvait la toucher ou pas. Il a fait aussi un travail avec des aveugles, sur les aveugles.
Ouais.
Et en tout cas, c'est intéressant de voir comment finalement la perception elle agit sur son analyse de son environnement, l'analyse du monde. Et il est étonnant aussi de voir, enfin en tout cas avec les époques passant, que voilà, c'est quelque chose qui nous anime encore beaucoup. Et en tout cas à l'époque, qui était très décrié, puisque lui, il a fait de la prison à cause de ça, de son traité sur les aveugles. Et ça lui a, voilà, c'était un peu compliqué de faire admettre cette chose qui était que la perception pouvait agir sur la morale aussi.
C'est en effet intéressant de se dire que de cette question des humanités, avec cet exemple que tu cites, petit à petit on glisse vers une notion d'humanité numérique aujourd'hui, hein, ça paraît en même temps assez logique. La question des humanités numériques, je vais vous laisser décrire l'un et l'autre ce que c'est que de votre point de vue, et puis on va avancer dans le sujet au fur et à mesure. Mais j'avais envie d'écouter en fait un extrait d'une émission qui a été diffusée en mai 2015 sur France Culture, animée par le légendaire Xavier Delaporte. Et la définition est donnée par Pierre Mounier, qui est auteur et grand spécialiste de l'édition électronique et des humanités digitales. On les écoute.
Donc ça fait partie même du champ des humanités numériques que d'essayer de traiter la question de la définition même des humanités numériques. Alors, sans entrer dans des choses trop complexes, d'abord une première définition qui est vague, molle, mais qui est opératoire, qui veut dire, à première vue, les humanités numériques, c'est tout ce qui concerne l'intersection des recherches en sciences humaines et sociales avec des technologies numériques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de la mobilisation à un moment ou à un autre de la pratique de la recherche, de technologie numérique, on entre dans le champ des humanités numériques.
Alors, ça ne concerne pas, par exemple, un chercheur qui travaille sur un ordinateur avec un...
Alors, c'est là que...
qui écrit sur un ordinateur.
C'est là que arrive la deuxième définition des humanités numériques. Cette première définition, elle est très très basique, mais on voit qu'elle est relativement insuffisante, parce qu'on se dit, un chercheur qui travaille avec Word, et tous les chercheurs travaillent avec Word, est-ce qu'ils font des humanités numériques ? A priori, plutôt pas, ou alors cette notion n'a aucun sens. Alors là où ça devient intéressant, c'est peut-être de se dire, il y a deux manières d'aborder les choses. La première, c'est de se dire, à partir du moment où un certain nombre de chercheurs réfléchissent à ce que la mobilisation numérique change à leur pratique de recherche, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une réflexivité des chercheurs sur les technologies qu'ils mobilisent pour conduire les recherches, alors on commence à entrer dans le cœur du champ des humanités numériques. Et il y a une dimension réflexive qui est très importante dans le développement de ce champ des humanités numériques, qui est aussi l'occasion pour des disciplines de sciences humaines et de sciences sociales de réfléchir à la part technologique de leur activité de recherche, et en particulier en ce qui concerne les technologies numériques. Et puis il y a une autre manière d'aborder cette définition, et peut-être que c'est la plus intéressante et la plus opératoire, c'est de prendre un recul, une sorte d'extériorité, et de se dire que les humanités numériques, c'est ce qu'on voit des humanités numériques. Et donc là, c'est peut-être tout simplement les projets que l'on voit, les réalisations que l'on voit, et on peut définir les humanités numériques aussi par les projets d'humanité numérique qui se réalisent et qui reposent pour beaucoup sur de la numérisation de sources, de données, sur l'exploitation par des technologies computationnelles de ces sources et par la diffusion par le numérique à la fois de ces sources et de ces résultats de recherche.
Alors, les émissions à Grenouille ne sont pas filmées, sinon vous auriez vu que Michael a eu un air dubitatif et que Anthony est passé de non, 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 non à oui, 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 oui. Du coup, je vais pour commencer, Anthony, te laisser rebondir sur ce qui a été dit et peut-être donner ta propre définition de ce que les humanités numériques.
Merci. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, par rapport à Diderot, ce qui a été dit avant, c'est intéressant parce qu'il y a un projet en cours de numérisation complète des archives de Diderot, donc on voit que ça traverse. Et on pourrait du coup rechercher des items et classer, on va se balader là-dedans. Après, non, tous les chercheurs ne travaillent pas sur Word, en tout cas pas moi. Alors peut-être que c'est la majorité, je ne conteste pas ça.
C'était en 2015, du coup les choses ont beaucoup changé. Même en 2015,
il y a d'autres façons d'écrire. Mais c'est un exemple intéressant, Word, parce que du coup, effectivement, c'est une conception du monde. Une conception de l'écriture, la notion de page qui est dans Word. Et la notion de page, on peut se demander si elle est toujours pertinente dans le numérique, c'est pas sûr. Il y a d'autres façons d'écrire et du coup d'autres façons de penser. Et après, les projets, c'est ce qu'on en voit. Oui, c'est plus ça qui m'intéressait dans mon essai, à vrai dire, d'étudier ces projets de numérisation. Alors ça, c'est peut-être une première phase, mais oui. D'autres façons de classer des choses en ligne. Et dès lors qu'on parle de classement, on parle d'affichage et donc de design graphique, d'interface.
Ah, ça y est, rentre dans le vif du sujet d'ores et déjà. Moi, j'avais juste une petite question. Alors, peut-être qu'elle est rhétorique, hein, mais Michael et Anthony, est-ce que c'est pas un peu antinomique humanité et numérique, le fait d'accoler ces deux termes?
Pour essayer de préciser une définition, je pense que celle que donne Pierre Mouniel est pas mal, c'est-à-dire l'intersection des sciences humaines et sociales et des technologies numériques, mais du coup, ce serait, selon moi, à la fois le logiciel et le matériel. Il ne faudrait pas oublier le hardware non plus dans cette histoire.
Ouais. Et Julia avait une autre définition, je crois que Julia Beaufils, qui est co-animatrice et que vous entendrez peut-être un petit peu plus dans la deuxième partie de l'émission, elle dit finalement c'est une épistémologie. Tiens, j'arrive même pas à le dire.
Une épistémologie, Céline.
Merci, Julia. Don't say quoi? Non, ne sais pas quoi. Julia, elle donne cette définition.
C'est pas mal, parce que de toute façon, dès qu'on parle d'être humain, on parle forcément de quelque chose qui ne peut pas être calculable. Donc, mais l'épistémologie, je ne sais pas si on sait ce que c'est.
Je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est. C'est le retour de la science sur elle-même, entre guillemets.
C'est ça.
En tout cas, moi, ce qui m'intéresse aussi dans les humanités numériques, c'est une chose qui les caractérise, c'est la transdisciplinarité qui a été mise en place grâce avec cette chose-là, et qui a mené aussi des nouvelles façons de travailler ensemble, donc des nouvelles formes de collaboration entre des gens qui étaient pour l'instant, enfin jusqu'à présent, très cloisonnés chacun dans leur discipline et dans leur champ de savoir, et dans notre tradition culturelle française vraiment régie par l'académisme, hein, confère Louis XIV, etc. C'est intéressant aussi de ces nouvelles façons de rentrer en interaction et d'être dans des phases de recherche. Et donc une recherche presque empirique, c'est-à-dire qui part vraiment de la pratique, des gens qui se mettent à faire là on est autour du projet. En tout cas, des gens qui commencent à réfléchir ensemble sur des choses concrètes, et petit à petit, le savoir se sculpte, se façonne de ces interactions.
Oui, pardon Céline. Oui, selon moi, c'est forcément collaboratif. Je rejoins ce qui a été dit. Du coup, comment on fait travailler des chercheurs en sciences humaines, historiens avec des ingénieurs, avec des gens qui font de l'interface, tous les problèmes que ça pose, et aussi tous les gens qui ne sont pas là-dedans. En creux, on peut aussi faire une définition négative. C'est tous les chercheurs qui n'ont pas renouvelé leur pratique par le numérique. Donc, peut-être ceux qui sont sur Word, qui se posent la question de l'écriture dans les écrans. Donc, c'est aussi intéressant de voir ça.
Michael, tu es intervenant auprès d'étudiants à la Fac Saint-Charles en tant qu'artiste. Ils sont étudiants donc en humanité, en numérique et sciences sociales.
Le nom de la licence, c'est Sciences et Humanité.
Ah oui, Sciences et Humanité. Et donc, quel est le... Je pense que ça rejoint à peu près ce dont on parlait. Quel est le rôle d'un artiste qui intervienne auprès de ses étudiants dont finalement l'endroit de recherche est de penser l'homme aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui?
Alors, juste pour donner un peu de contexte, la licence, elle est assez récente. Oui. Et en tout cas, les étudiants, leur parcours, il est vraiment super parce qu'il est alimenté par des philosophes, des physiciens, mathématiciens, anthropologues. Et donc, la transmission, elle est structurée autour ce qu'ils appellent un storyboard, c'est-à-dire vraiment des contenus presque éditoriaux. Il faut savoir que les enseignants, chaque année, ils se retrouvent en séminaire et ils s'enseignent ce qu'ils vont enseigner aux étudiants. Donc, il y a vraiment l'idée d'un corps enseignant qui, voilà, encore une fois, la transdisciplinarité est vraiment à l'œuvre et elle est vraiment très précieuse. Et en tout cas, donc, moi, artiste là-dedans, l'idée, c'est d'arriver avec un TD qui est assez court, mais je les amène au Muséum d'Histoire Naturelle au Palais Longchamp et on va rentrer dans une pratique que j'appelle une pratique laboratoire collaboratif ou à partir de supports marionnettes, puisque dans mon travail, j'utilise des objets marionnettiques, mais un peu particuliers, par exemple, des objets végétaux, enfin donc des choses qui sont transgenres aussi par nature, et avec eux on va explorer comme ça différentes questions que peuvent poser ces objets, mais aussi placés dans cet univers de muséum, et donc qui interroge les sciences, enfin le vivant, qu'est-ce qui est des questions de l'homme, enfin de l'humain.
Oui, c'est ça.
Hein,
ouais,
on va arrêter de dire l'homme, mais on va dire de l'humain.
Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Je suis d'accord.
dans son environnement.
Ouais, peut-être pour rebondir, désolé.
Vas-y, je t'en prie,
je vais pas ruiner ton conducteur.
C'est ton émission. Ah, non, mais quand même. même.
Pour rester dans la pédagogie, t'as invité deux professeurs, pas de bol. je suis co-responsable d'un master en design transdisciplinaire, c'est dans l'intitulé du master. Ouais. Et du coup, on est beaucoup à l'intersection du design et des sciences humaines, au sens où nos étudiants designers, du coup, travaillent tous les champs en même temps, ce qui n'est pas sans difficulté, espace, produit, graphisme et mode, entre autres. Et du coup, ont des terrains d'enquête, ils travaillent avec des partenaires, c'est obligatoire, extérieurs à l'université. Et du coup, c'est depuis ces terrains d'études qu'ils vont faire émerger des contextes de projet possibles.
Mais justement, pour un peu zoomer sur, notamment à partir de ton bouquin, Anthony, autour de design et humanité numérique, a priori, le design ne faisait pas partie des disciplines intégrées dans la question des humanités, peut-être même des humanités numériques. Et en quoi, justement, le design va venir éclairer peut-être ce qui est la fonction des humanités, c'est-à-dire ce que tu disais, Michael, une approche sensible de la pensée du monde et des humains.
Tu pointes un problème de fond, c'est que la plupart des projets en humanité numérique, en vérité, n'existent pas. Il y a beaucoup de projets qui sont sur le papier, dans des bases de données, mais assez peu de choses qu'on peut voir, tester, utiliser. Et bah, notamment, le manque de design, pour moi, est un facteur flagrant d'explication de ces échecs, avec des gros budgets parfois, des choses qu'on voit pas. Et oui, parce que dès lors que c'est notre culture, la culture visuelle, qu'est-ce qu'on en fait? Et dès lors qu'on parle d'afficher des informations, de pouvoir les classer, de pouvoir les réunir, de la question de la lecture, de l'écriture, de la collaboration et de tout ce qui permet cela, les compétences du designer d'interaction, d'interface graphique sont primordiales. Et on commence à y venir tout doucement, mais c'est vrai que dans les appels de projets ou les appels d'offres, c'est pas quelque chose qui est mentionné pour l'instant, parce qu'on est dans une culture à mi-chemin entre l'ingénierie et les sciences humaines, et le design là-dedans a encore du mal à se placer.
Mais pourquoi?
On peut voir ça de plusieurs façons. Du point de vue peut-être des commanditaires ou des initiateurs de projets, tout simplement, la France n'est pas un pays de design, donc du coup, le design n'est pas repéré à cet endroit-là. On est toujours encore dans un héritage, malheureusement, lié aux arts décoratifs. Et du point de vue des designers, quand même, pour faire aussi mon autocritique ou l'autocritique de ce champ-là, un manque d'intérêt aussi vers les questions liées à l'ingénierie et à la programmation informatique notamment. Encore trop peu de designers graphiques comprennent, au-delà de la programmation, même la logique même du code. Et alors là, après, sur le lien design et sciences sociales, je pense qu'il y a aussi un manque de dialogue et d'ouverture à cet endroit-là, peut-être un manque de curiosité. Il y a trop de personnes qui font la même chose, en fait, dans le design en France. Il faut le dire de façon très directe, mais bon, on a peu de temps, donc je me permets.
Est-ce que c'est aussi ce qui fait la différence dans cette approche entre le monde anglo-saxon et le monde français? On en parlait un peu avant l'émission, que finalement, ce qu'on appelle les humanités, donc c'est lié aux humanities en anglo-saxonnes, et que c'est pas tout à fait la même approche. C'est aussi une résultante de ça, c'est-à-dire peut-être une approche un peu moins pragmatique en France?
Peut-être plus cloisonnée encore. Ça, en tout cas, les humanités numériques font émerger la pertinence de décloisonner les champs du savoir, comme ce qui a été dit auparavant. Ouais. Et dans le champ anglo-saxon, du coup, alors c'est pas sans poser problème, évidemment, mais déjà la longue histoire des studies, gender studies, oui. Software studies, peut-être pour ce qui m'intéresse le plus, ouais. Et du coup, digital studies, pourquoi pas. Il me semble qu'on a besoin d'avoir ces... Du coup, c'est pas discipline, mais bon, c'est champ de pensée au carrefour de plusieurs héritages historiques. Il me semble que ça, c'est très nécessaire, parce que la complexité du monde ne peut plus s'aborder depuis un seul point de vue.
Alors, écoutez, je vous propose de faire peut-être une petite pause. Julia, tu voulais poser une question?
Non, ça va, j'ai tout un stock de questions qui attend pour la deuxième partie.
Michael, tu voulais rebondir sur ce que venait de dire Anthony avant que je ne me précipite à lancer ce morceau de musique?
Oui, parce que aussi pour moi, dans les humanités numériques, ce qui est dit en creux, c'est le côté international. C'est-à-dire, oui. À un moment, justement, par rapport à des traditions voilà, plutôt de pragmatique, enfin, la philosophie pragmatique. Enfin, en tout cas, on voit que finalement, tous ces chercheurs à travers le monde se posent. C'est la question en creux aussi, c'est la question de la traduction. Comment oui. On passe d'un langage à l'autre, d'une discipline à l'autre, d'une recherche à l'autre. Et je trouve que c'est moteur aussi dans qu'est-ce qui se construit ensemble. C'est de ne pas trouver le langage unifié, le langage pur, celui qui va permettre de résoudre tous les maux de notre société via le numérique. Mais au contraire, comment il y a des singularités, il y a des endroits de recouvrement, il y a des effets bordure aussi. Ça, c'est intéressant, les effets bordure, c'est la permaculture qui nous amène ça. c'est de dire que deux écosystèmes côte à côte, finalement l'endroit d'intersection, c'est un endroit où ce n'est pas que les deux écosystèmes, c'est un endroit où va apparaître des choses spécifiques et qui ne peuvent pas exister ni dans un écosystème ni dans l'autre. Donc tous ces effets bordure, c'est aussi finalement quelque chose qui va avec les humanités numériques pour moi.
Oui, c'est vraiment l'éclairage de la notion de complexité du temps long et du temps long à passer pour comprendre finalement ce qui est en train de se passer. Donc première pause musicale dans l'émission qui nous a été offerte par Fabrice Pompidou qui est notre programmateur musical. Alors je vais vous lire le petit billet qu'il nous a donné. C'est « Bon alors, j'ai visité Concorde la semaine dernière à Toulouse et depuis je me sens moderne et totalement ancrée dans le futur. Ma vie a changé. » Quand même, quelle merveilleuse prouesse technologique. Je sais pas s'il y a beaucoup de liens avec le thème et pour cause.
Alors j'y étais le même jour que lui, je dois dire. Donc
il y a un lien.
C'était pas avec lui, mais on a vu après qu'on était au même moment.
D'accord, ok. Donc en fait, finalement, il y a un lien à l'émission parce que je vous cache pas qu'en fait le deal avec Fabrice Pompidou, c'est que je lui envoie le thème de l'émission et lui en retour il donne des morceaux de musique. Et là, lorsque je lui ai envoyé le thème de l'émission, j'ai mis en commentaire bon courage. Mais comme il est très doué, il a quand même réussi à trouver nous trouver deux morceaux de musique et mais il justifie quand même en disant je ne sais pas s'il y a beaucoup de liens avec le thème et pour cause, j'ai aujourd'hui l'impression d'être un contorsionniste du disque pour être raccord, alors je me suis orientée vers un plaisir solitaire de l'onanisme musical, à savoir des illustrations sonores de TV indicatifs et génériques. Oui, c'est finalement sa part d'humanité hein, à Fabrice, et il nous donne à écouter à partir de cette envie Benoît Hutin avec Impulsion. C'est extrait d'un album qui s'intitule Synthétiseur et qui date de 82. Et donc, les plus jeunes, dit-il, pourront constater que le synthé a existé avant Stranger Things et que l'habillage sonore est loin d'être un sous-genre de la musique.
Thank you.
La clique numérique. Alors après cette respiration synthétique, il est temps d'écouter la chronique de Thomas Ricordo. Et alors bon, Thomas, normalement, là, tu étais dans ton élément.
Et justement, Céline, j'ai fait un peu de hors-piste, mais comme tu m'appelles mon petit bouchon, je crois que je peux tout me permettre.
Mais oui.
Laissez-moi introduire mon propos sous la forme d'une petite anecdote. Il y a quelques semaines, mes étudiants, mes collègues et moi-même, nous nous sommes rendus à The Camp, à Aix-en-Provence, pour participer à un workshop du programme Waves, intitulé « Mobilité », un projet collaboratif pour imaginer les mobilités de demain. Une fois passées les désormais inévitables distorsions linguistiques novglobish, c'est hyper dur à dire, nous nous sommes engagés dans différents ateliers pour imaginer ensemble et sous forme de scénarii, tantôt utopiques, tantôt dystopiques, la mobilité du futur. J'avoue que très rapidement, j'ai pu contempler non pas l'abondance, mais la pénurie de ce qu'Adobe appelle la créativité. Pénurie collective dont je fais misérablement partie. Je m'explique. Il fut très rapidement entendu que la mobilité était d'ordre strictement matériel, comme diraient peut-être les Shadocks, des petites boîtes ou des animaux rangés dans de plus grandes boîtes, le plus souvent à roulettes, et se déplaçant sur notre planète. C'est-à-dire des trains, des voitures, des camions, des bicyclettes, des mobilettes et éventuellement des autobus.
Il y a trois sortes de casseroles. Les casseroles avec la queue à droite, les casseroles avec la queue à gauche et les casseroles avec pas de queue du tout. Mais celles-là, on les appelle des autobus. Il y a trois sortes d'autobus. Les autobus qui marchent à droite, les autobus qui marchent à gauche et les autobus qui ne marchent ni d'un côté ni de l'autre. Mais ceux-là, on les appelle des casseroles. Il y a trois sortes de casseroles. Les casseroles avec la queue à droite, les casseroles avec la queue à gauche et les casseroles...
Mais alors, qu'est-ce qui me chiffonnait dans tout ça? Il y a, je crois, dans notre incapacité à poser le problème autrement que par l'allégorie de la voiture ou de l'avion, comme le Concorde, notre impossibilité de penser la mobilité de l'information. Je m'explique. L'enjeu de cette question dans le contexte de l'Anthropocène n'est pas de considérer uniquement la mobilité des marchandises et des corps humains, mais bien de résoudre un problème double, à la fois la mobilité de la matière, mais aussi celle de l'information qui n'est jamais qu'un état particulier de matière, ce que Bernard Bip appelle l'hypermatière. J'ai dit que je ne prononcerai pas son nom cette année.
Non, tu as dit que tu ne dirais pas Stigler cette année.
Voilà. Car résoudre l'équation de la mobilité, c'est bien s'assurer de la compatibilité de nos pratiques avec notre environnement. Un exemple précis. Le projet Wikispeed, dont le slogan est « My next car, get 100 miles per gallon », alors je suis très mauvais en anglais, soit « Ma prochaine voiture consommera 2,5 litres de carburant pour 100 km ». Sous cette accroche énergétique se cache un projet de véhicule open source qui répond à un des commandements de Bowens, ce qui est léger est global, ce qui est lourd est local. En clair, les plans des voitures Wikispeed sont accessibles et téléchargeables dans le monde entier, mais la fabrication reste locale. C'est, je crois, une façon habile de répondre aux impératifs de sobriété en augmentant la mobilité de l'information, les plans, et en réduisant celle de la matière. C'est, je crois, aussi dans ce cadre-là que la mobilité peut avoir un mobile, c'est-à-dire des motifs et des motivations, car elle n'est pas seulement thermodynamique, mais potentiellement territoriale, culturelle et économiquement vertueuse. En adepte inconditionnel de Jean-Claude, permettez-moi dès lors ce grand écart facial. La question que pose Anthony dans son ouvrage est finalement du même ordre. Revenons juste un instant sur ce que recouvre le mot « humanité ». Au singulier, l'humanité, c'est ce qui désigne l'espèce humaine, une grande famille et l'éthique qui l'accompagne. En revanche, au pluriel, les humanités désignent la formation aux arts dits libéraux, pour faire vite, la littérature, les sciences et les arts. Justement, qu'est-ce qu'a produit l'entrée en régime numérique des humanités? Échappant autrefois au règne du calcul machinique intégral, la littératie, le monde des lettres, et la numératie, le monde des chiffres, sont aujourd'hui rassemblés en une gigantesque économie de la mémoire constituée en marché. Chacun de nos faits et gestes sont désormais engrammés, c'est-à-dire spatialisés, mémorisés sous forme d'écriture, sur divers supports et à l'aide de différents périphériques. Téléphone, GPS, carte de crédit, de transport, de fidélité, caméra, cookies, logiciels, et exploité par diverses instances essentiellement privées. Plus aucune mobilité n'échappe à la captation spatio-temporelle. Macromotricité, vos mouvements et déplacements. Micromotricité, vos lectures et gestes. Bientôt nanomotricité, vos sécrétions chimiques et électriques. Il ne manque plus que le cosmos, la cosmotricité, ça aussi c'est dur à dire. Mais heureusement, mes amis, il y a SpaceX. Il n'est guère étonnant que dans ce contexte, la Silicon Valley, les transhumanistes de tout poil et les fictions de SF en vogue soient focalisées sur l'immortalité, tant il est urgent de repenser l'écologie et l'économie du vivant et du mort, c'est-à-dire les mobiles de cette mémorisation généralisée et le rapport avec nos objets, notre production, notre langage et la circulation générale de nos sécrétions humaines, qu'elles soient techniques ou biologiques. Il est donc prioritaire de fonder des politiques publiques d'économie des traces, c'est-à-dire, rappelons-le à nouveau, définir les conditions de circulation de la connaissance et des savoirs. Ah, mais excusez-moi, je vais devoir vous quitter, je crois apercevoir une bagnole dans l'espace. Oui, oui, un superbe bolide rouge. Putain de camion.
Alors avant de te passer le micro et de récupérer les invités, Julia, je vais juste demander à Anthony et à Mickaël si vous avez envie de rebondir sur cette chronique fort brillante et relevée que vient de nous dérouler Thomas.
Oui, je voulais juste rebondir ce qu'a dit Mickaël avant la chronique.
Ah oui, c'est alors donc tu rebondis déjà sur Mickaël, et après est-ce que tu vas rebondir sur Thomas ?
Exactement, il y a aussi
des ricochets. En fait, ça s'appelle ricochet.
Ouais, c'est à plusieurs bandes.
Comme je suis le seul aujourd'hui, Thomas.
Juste pour dire que Mickaël parle des pratiques collaboratives, et les humanités numériques, c'est intéressant, c'est qu'elles n'apparaissent vraiment qu'avec le web. Avant, on n'en parle pas vraiment, tout simplement parce que ça permet d'écrire, de communiquer à plusieurs, et que donc ça fait complètement éclater les frontières nationales, et donc ça chamboule forcément, indirectement, les académismes, en tout cas les rapports institutionnels. Par rapport à ce qu'a dit Thomas, je me permets une auto-promo pour mon podcast Kill by App, mais
oui,
c'est ta faute Céline.
J'y ai pensé.
J'ai basculé dans la radio suite à la dernière émission. Ouais. Je sais pas si vous avez invité à créer leur podcast après être passé ici.
Pas tous.
Et on a fait une émission sur les bagnoles et qui s'appelait du coup voilà, mon autre voiture est un smartphone.
Ouais.
Pour du coup évoquer la fusion entre ces terminaux d'information et la mobilité, mais le terme même de mobilité, Thomas, que tu as répété pas mal de fois, et aussi interrogé, il est porteur de valeurs, pas forcément positives, et en fait, est-ce que c'est bien de bouger tout le temps? Je sais pas. Donc, du coup, dès lors, enfin, si on pose ça comme problème, c'est déjà un problème en soi, en fait. Il me semble qu'il faut re-questionner même le sujet parmi cette nouvelle langue que tu évoquais.
On va dire à The Camp qui t'invite de temps en temps. Je suis sûre que le lieu t'intéressera en plus. The Camp qui est situé à côté d'Aix. Thomas, dans ta chronique, tu as cité Michel Bowens. Je recommande aux auditeurs d'aller, s'ils ne connaissent pas ce penseur et auteur, d'aller jeter un petit coup d'œil sur Internet pour voir un peu de quoi il retourne. Allez, Julia, c'est à toi.
Allez, donc je prends le relais sur cette deuxième partie d'émission. Et j'ouvre mon folder à questions par le thème de la réconciliation. Cette jeune fille est vraiment bizarre, vous me direz, mais ça va faire sens, vous allez voir. J'entends parler ici d'un idéal scientifique jamais atteint, celui de réconcilier les sciences dures, comme les maths, et les sciences sociales, ou sciences dites molles. Terme peu glamour, je vous l'accorde. Nous avons toujours tenté de dissocier ces pôles, mais est-ce que les humanités numériques ne permettraient-elles pas de les relier et ainsi signer la paix entre ces deux ensembles de disciplines ?
Mickaël, est-ce que tu veux répondre ? Ou on laisse Anthony ?
Alors, est-ce que je peux faire un petit back forward?
Reposerai ma question sinon.
Oui, tu reposeras ta question à Anthony. On va appeler cette émission Retour vers le futur.
Non, mais c'était pour faire un petit peu de publicité. Je sais pas si j'ai le droit à l'antenne.
Vas-y.
Non, mais c'était par rapport à la question de vie éternelle, de transhumanisme, etc.
Qui avait dans la chronique de Thomas.
Oui, dans la chronique de Thomas, c'est ça. Je voulais juste citer que c'était le thème de Ouzbek Erika, le dernier numéro.
Tout à fait.
Et que je trouvais que notamment le premier article, l'article édito, était très très intéressant. Et vraiment en connexion complètement avec ce qu'on est en train de parler sur l'universalité et voilà comment finalement la séparation est toujours quelque chose de plus confortable que justement trouver du commun et voilà c'est peut-être ça aussi qui peut revenir
sur la... Et puis le transhumanisme, on en a parlé dans notre émission de nous aussi on fait la pub alors du coup dans notre émission de du mois dernier.
Et Michel Bowen, ça a réfléchi sur les blockchains aussi récemment pour boucler la boucle.
Et ça c'était notre clic numéro 20, non?
C'est fou, hein, en fait, on parle de tout. Allez,
fort.
Julia, essaye d'avoir une réponse à ta question.
Alors, Alors du coup, ouais, ma question, pour la faire courte et synthétique, est-ce que du coup, les humanités numériques, ce serait pas signer la paix entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales ?
Alors c'est une question épistémologique, voilà. Pour reprendre ton expression. C'est compliqué, ces expressions-là sont soumises à de nombreuses controverses et que je ne maîtrise pas bien, pour être tout à fait clair. Par contre, je peux observer à échelle locale, à Toulouse, comme dans d'autres villes en France, deux campus. Un campus, on va dire, qui recouperait les sciences humaines, et un autre campus, à l'opposé de la ville, évidemment, où se baladent des ingénieurs, des physiciens, etc. Je dis tout ça volontairement au masculin, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, numériques ou pas d'ailleurs, là-bas, et que donc il y a aussi des questions de genre qui traversent cette séparation.
Pas
et...
beaucoup de femmes.
Bah ouais, c'est
exactement, ce que... oui, pardon, pas oui. beaucoup, pas beaucoup, enfin vous ouais. avez compris. Et que donc du coup les humanités numériques...
J'ai compris surtout que t'osais pas le dire, alors du coup tu t'es trompé.
Et que donc les humanités numériques, bah, peut-être, pourraient permettre de parer à ça. Mais à Paris, on retrouve aussi cette séparation, malheureusement, entre d'un côté le campus Condorcet au nord de Paris, où du coup il y a des humanités numériques, et le campus Saclay, s'il existe encore, où voilà, il y a d'autres choses.
Bah, c'est un peu vrai aussi sur la MU, Aix-Marseille Université.
Bah, au final...
Et pour répondre à cette question, c'est toujours un peu compliqué de le prendre comme ça, un peu essentialiste. On pourrait dire qu'il y a des chercheurs, quelle que soit leur discipline, qui sont plutôt dans re-questionner leurs propres pratiques, enfin en tout cas qui sont dans des démarches, on pourrait dire progressistes. D'autres qui sont plutôt vraiment, on pourrait dire conservateurs, dans dire on assoit des savoirs et on les pense comme vérité. C'est-à-dire il y a un phénomène de croyance qui vient s'incruster en plus. Souvent je pense, et c'est vraiment aussi quelqu'un qui est très proche dans mes recherches là, par rapport à mon travail artistique, mais Bruno Latour en ce moment, il nous demande de trouver nos alliés. C'est-à-dire que ce soit dans n'importe quel champ de la science ou n'importe où ailleurs, dans la société, les relais dans la société, c'est quels sont les alliés et avec qui on est. Et même lui, il va plus loin, il dit... Bah, quel est l'ennemi ? Enfin, qui est l'ennemi ? Qu'est-ce qu'il faut combattre ? Et dans son dernier essai qui s'appelle « Où atterrir », voilà, on sait qu'il va nous proposer une cartographie dans laquelle il va parler des hors-sols. Les hors-sols, c'est Trump, c'est-à-dire c'est une sorte de caste, voilà, des hommes les plus riches et qui s'extrait de l'environnement, qui s'extrait de tout en se disant « Bah non, de toute façon, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Au dernier moment, on sera dans notre petit bunker et on sera sauvé dans notre bunker. » Et face à ça, lui, il va définir les terrestres. Mais les terrestres, c'est une invitation à ce qu'il y ait des chercheurs, ce qu'il y ait des gens de tous les arts, de tous les corps de notre société qui se retrouvent parmi les terrestres, c'est-à-dire des gens sur ok, je suis là maintenant dans cet espace-là. On a parlé d'anthropocène tout à l'heure. Donc il y a quelque chose qui est
tend vers la transdisciplinarité et vraiment la volonté de créer quelque chose de nouveau à la frontière, comme ce que tu disais tout à l'heure, un environnement nouveau à la frontière de deux écosystèmes complètement différents.
C'est ça, mais sauf que le contexte, et c'est le contexte que donne Bruno Latour, c'est de dire attention, on est en guerre. C'est-à-dire, c'est pas dans un climat pacifique, on est en paix, tout le monde s'aime, c'est pas flower power. C'est oui. vraiment de dire, attention, là, si on n'est pas si on n'a pas dit qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis, alors on va à notre perte dans un...
Il y a une notion de lutte complète, quoi.
Ouais, sur un plan géographique, du coup, voilà mes questions d'espace. Peut-être que, du coup, ces pensées-là ne peuvent se développer que dans des lieux tiers, des tiers-lieux, Fab Lab, Lab en tout genre. Et en France, il n'y a toujours pas d'Humanities Lab, donc ça, c'est aussi un problème. Il y a des lieux qui s'en approchent, peut-être comme le Média Lab de Sciences Po, fondé par Bruno Latour. Oui. Mais ces endroits-là, éphémères ou autres, mobiles, restent encore largement à développer.
Ok, pour tous ces éléments. Céline, tu voulais peut-être dire quelque chose ?
Non, je te laisse la main, Julia, complètement.
Ça roule. Alors du coup, on continue la théorie pour se pencher un peu plus sur votre ouvrage, Anthony Mazur, publié dans la collection Esthétique des données. J'ai trouvé ça génial. Dans ce dernier, vous parlez d'une relation homme-machine, complètement ou en grande partie façonnée par l'industrie, la recherche d'efficacité, de rentabilité et de tout plein d'autres mots en « et ». Donc, soyons clairs, ce bouquin, c'est une critique ouverte au capitalisme et surtout au cybercapitalisme.
La réponse est oui, mais j'ai fait attention quand même à appeler ça « relation humain-machine ». J'insiste notamment pour la place des femmes ou personnes assignées femmes ou personnes non assignées hommes. C'est hyper important, notamment quand on parle d'interface homme-machine, ça me plaît pas du tout. Et donc oui, forcément, on parle tout à l'heure des communs, mais le commun peut aussi être néfaste quand il est imposé, notamment quand la langue universelle devient le code anglo-saxon et la nouvelle langue informatique et toutes les relations de pouvoir qui vont avec. Et il me semble que les humanités, notamment quand on touche à la littérature, aux notions d'ambiguïté, d'incertitude, etc., tout ce qui fait la valeur des êtres humains, peut nous apprendre des choses super intéressantes sur le code et déjouer ces logiques de rentabilité, d'économie dont un certain Bernard s'est fait l'écho maintes fois dans le passé et aujourd'hui encore.
Michael, est-ce que tu veux un peu rebondir sur cette question de la question des humanités numériques? C'est un peu aussi une manière d'élaborer une critique du capitalisme, comme le dit Julia.
C'est ça, et puis c'est, en tout cas, pour moi, c'est vraiment des questions liées au temps, à la perception du temps, comment on habite le temps. Enfin, c'est pas qu'habiter un espace, c'est aussi habiter des temps différents, des temps de débrayage, des temps de rêverie, des temps de, voilà, de, où on n'est plus dans une pensée efficace, mais au contraire, et on voit bien toujours dans le processus créatif, en étant artiste, on sait très bien que c'est en dormant, en faisant une sieste, en dormant la nuit. En tout cas, c'est aussi dans des périodes où on n'est pas assigné à notre, voilà, attention, tu es artiste. Voilà, tu dois produire une œuvre. Non, c'est aussi dans ces moments-là, dans des moments de fête, dans des moments de rencontre, des choses naissent, apparaissent, germent à ces endroits-là. Et donc c'est précieux en tout cas, même dans, par exemple, la création sur laquelle je suis en ce moment, il y a vraiment l'idée d'imaginer un futur, de proposer un futur. Effectivement, si on regarde Hollywood, on a des futurs qui sont des futurs technologiques, des futurs dans lesquels, en tout cas, la relation humain-machine est centrale, etc. On pourrait se dire qu'on pourrait imaginer encore plus loin un futur dans lequel, on n'est plus du tout, on déborde la question de l'humanité. Justement, on essaie de l'élargir, dire les vivants, la vivance. Nous, on a inventé un néologisme avec mes collaborateurs dans le spectacle. On parle de la vivance, mais comme une sorte de force qui permettrait à la fois de qualifier tous les vivants de la planète, mais aussi les forces agissantes entre les forces qui les relient.
Et alors du coup, je fais juste une petite parenthèse, Julia, si tu m'autorises, par rapport au spectacle dont tu parles, Michael, qui est Uberbiste Machine, pour les auditeurs de Grenouille et ceux qui habitent à Marseille, sachez que ce spectacle, c'est en lien avec ton actualité et la raison pour laquelle aussi ça tombe bien que tu sois là, sera présenté à la Friche la Belle de Mai par le théâtre Massalia, les 30 et 31 mars. Alors évidemment, les informations sont et seront sur le site de Massalia et puis aussi sur le site de Zinc, puisqu'on propose autour de la présentation du spectacle un ensemble de rencontres, d'ateliers. Il y a aussi une exposition. Ça sera une sorte d'illustration concrète de ce dont nous sommes en train de parler dans cette émission, je pense.
Et ce côté, contre dire que ce n'est pas aussi une privatisation de la recherche par les chercheurs, mais aussi l'idée que le citoyen, quel que soit son endroit, peut venir aussi amener ce qu'il est, sa façon de percevoir les événements, et que finalement c'est la question de la récolte est très importante, hein, des échanges, de la récolte, comment on arrive à se mettre ensemble. C'est pas pour rien, Bruno Latour en ce moment à Sciences Po Paris, ce qui est mis en place, c'est un travail autour des doléances, et il insiste beaucoup là-dessus, sur les doléances, comment finalement un peuple se constitue par des choses qu'on a envie d'avoir. Et donc on les liste, ce qui va pas, et on liste, et etc. Et donc en tout cas, pour moi c'est important, cette dimension d'appropriation par le citoyen même, qui a pas besoin d'être le spécialiste de la Friche pour venir voir un spectacle, mais là c'est aussi en tant que citoyen qui peut venir se promener et se confronter à ces questions là
Super, beaucoup de pub, hein, aujourd'hui dans cette émission. Donc je rigole et je continue. Donc je tiens vraiment à parler de capitalisme aujourd'hui.
Oui.
Si on parle de capitalisme, nous parlons forcément d'instrumentalisation de la technique dans une perpétuelle recherche de profit et quelque part de contrôle aussi. Donc si je dis contrôle, je dis Google Analytics, je dis eye tracking. Et en fait, ma question, c'est comment s'extraire de cette volonté de contrôle assignée à la technique et aux technologies? Est-ce qu'on peut y répondre par l'art, par l'expérience, par l'erreur, par le hasard?
Juste, je me permets un dernier back-off. Je trouve ça très intéressant ce qu'a dit Michael sur la limite de l'humain. Et je le dis en ouverture du livre, en fait, c'est que le mot limite numérique, dans un sens, il est déjà peut-être caduque. Et donné que les frontières de l'humain explosent complètement la fusion humain-machine avec les robots, les prothèses, etc. Et tout ce qui est non-humain, évidemment, les êtres vivants notamment. On n'est pas les seuls êtres vivants sur Terre. Pour ce que tu dis, il me semble que les humanités numériques, malgré tout, pour tout de suite, peuvent aider, pas toute seule évidemment, avec une conscience citoyenne, aider à déconstruire toutes les logiques de rentabilité au cœur du capitalisme et toute cette idéologie de puissance et de contrôle qu'on retrouve au début de l'ordinateur, notamment avec l'invention de la cybernétique, donc le pilotage des êtres vivants. Et il me semble qu'il y a urgence à déconstruire ces idées-là. Après, est-ce qu'on peut garder l'informatique sans la cybernétique? Ça, c'est une question extrêmement compliquée. J'espère que oui. Sans doute que certaines œuvres d'art nous donnent des pistes de compréhension, le net art ou autre, qui montrent qu'on peut faire autre chose, qu'on peut dévier ces techniques-là. C'est peut-être pas le cas d'autres techniques comme le nucléaire, qui sont beaucoup plus dures à dévier. Mais celle-ci, peut-être qu'on peut. Enfin, en tout cas, je reste optimiste en tant que designer.
Et moi, je pense que c'est aussi, pour répondre à ta question, c'est sur des hybridations, des fois, de dire, voilà, on met des choses qui vont pas ensemble, on crée du bâtard, on va pas du côté de la pureté, mais on crée du bâtard, on crée quelque chose, voilà. Par exemple, comment on peut mettre du végétal avec de la robotique, et se dire, mais voilà, comment faire coexister ces modes ces existants-là, et qu'est-ce que ça peut générer, qu'est-ce que ça peut inventer ensemble. Et ça permet de déjouer cette société du contrôle qui a besoin d'assignation, qui a besoin de cataloguer, qui a besoin de constituer des cases. À partir du moment où on est hybride, on n'est plus que dans des dosages, et c'est très compliqué de séparer, en tout cas.
Alors ouais, mais je crois que Thomas voulait ajouter peut-être quelque chose.
Non, moi j'ai un spot publicitaire à faire passer. Donc le 21 février, c'est le Social Club 3 à l'atelier Luma, et c'est un travail.
L'atelier Luma, c'est à Arles. Si tu fais de la pub, faut être précis. Hein.
Ouais, mais moi, je suis pas bon là-dedans. Le marketing, tout ça. Alors, et c'est donc Eric et Marge Clarenbeek qui proposent leur travail qui s'appelle Labo Algues. Et en fait, ils utilisent les algues de Camargue pour créer du fil d'impression 3D. Voilà.
Oh, génial.
Et je trouve qu'on a vraiment le lien du coup entre le vivant et le techno. C'est absolument génial. Quoi.
Après, les cas, ça revient vite. Aujourd'hui, Google encode et décode le génome humain. Donc, il faut faire attention. Et les luttes et les résistances doivent forcément être mobiles. On ne pourra pas trouver des réponses avec les types de manifestations ou de protestations du passé. Ça, il me semble qu'il faut essayer d'être créatif à cet endroit-là.
Ok, bon, ben, je pense que vous avez même répondu à mon avant-dernière question avec tout ça. Donc, on va passer à la dernière. La prochaine étape des Digital Humanities, c'est quoi ? Légitimer sa place en tant que mouvement qui tend vers une anthropologie du numérique ?
Anthropologie, oui. Après, il ne faudrait pas du coup se limiter à l'homme. Est-ce qu'on peut parler de transhumanité numérique pour déconstruire ces idéologies-là qui sont hyper puissantes dans les imaginaires contemporains et qui séduisent beaucoup nos décideurs politiques ? Je ne sais pas.
Alors, en tout cas, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est comment l'anthropologie est une science hyper riche, avec des gens qui réfléchissent. Enfin, c'est parce que des anthropologues ont réfléchi sur l'humanité qu'on peut se repenser différemment par rapport à la relation avec notre environnement. Et ça, je trouve ça très fondamental. On a des gens, Bruno Latour, on en a déjà parlé.
Oui,
là,
un petit peu.
On a lire Tim Ingold, et lui, c'est un anthropologue anglais, et lui, il associe je trouve que c'est lié un peu avec la thématique du design, mais lui, il associe anthropologie, archéologie, art et architecture. Et à partir de là, sur la question du faire, qu'est-ce qui se fabrique ? Et alors, il va nous parler d'un savoir et de transmission aussi, puisqu'il est enseignant. Et en tout cas, je trouve que, c'était juste, je voulais mentionner cette chose-là.
C'est très intéressant. Et aussi, un autre point, c'est essayer de reconstruire des imaginaires positifs. On arrive à penser la dystopie, on essaye, et même les dystopies d'ailleurs ne sont pas très créatives, mais c'est beaucoup plus dur. Et c'est aussi une des impasses, peut-être, de la série Black Mirror, qui est géniale par ailleurs. C'est comment on arrive à faire des choses, un monde dans lequel on a envie de vivre. Si c'est juste de dégoûter les gens du monde dans lequel ils sont, il me semble que c'est pas la peine.
Effectivement.
Alors, on va faire une nouvelle petite respiration musicale grâce à Fabrice Pompidou, qui dit, même s'il n'y a pas de lien apparent avec les humanités numériques, encore que, il nous propose des Feather Bed de Trevor Beslow. C'est un extrait d'un album qui s'appelle Music Bed et qui peut largement accompagner un voyage dans Concorde et dans les vôtres, peut-être aussi avec votre Concorde à vous.
Thank you.
Alors, on a demandé à nos invités de venir pour terminer l'émission avec leur pièce jointe, d'une certaine manière. Anthony, peut-être que ta première pièce jointe, ce serait ton ouvrage dont on a largement parlé, « Design et humanité numérique » aux éditions B42, n'est-ce pas ? Et où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage ? Et puis, je crois que c'est pas mal aussi de parler de ton site.
Alors, c'est bien distribué, heureusement. On le trouve à la librairie de la Friche Belle de Metz, je ne fais pas erreur, et dans environ 300 librairies en France. On le trouve aussi en ligne. Pour un livre qui parle de numérique, ça paraît évident, mais c'est malheureusement pas souvent le cas.
Non, c'est pas toujours le cas.
Sur un site dédié à la collection esthétique des données. Donc, pour l'instant, il n'y a que mon livre dans cette collection, mais il va bientôt être suivi d'autres ouvrages. Donc, on peut trouver des contenus complémentaires libres d'accès et libres de droit. C'est des analyses de projets que j'ai faites, d'environnement numérique autre que Word, dans lesquels évoluent les chercheurs en sciences humaines et les designers. Donc voilà, après j'ai d'autres recommandations, je continue ?
Oui, je t'en prie.
Le podcast Je passe, j'en ai déjà parlé, j'ai plus le droit. J'ai une belle revue à vous soumettre, la revue Logique, L-O-G-I-C, qui est une nouvelle revue anglo-saxonne de culture numérique et qui se propose d'analyser les logiques à l'œuvre dans les environnements numériques. Il y a 3 numéros parus, donc c'est imprimé et numérique, le sexe, la justice et l'intelligence. Il me semble qu'on a beau trio avec ça.
Oui, c'est pas mal. Michael, tu avais plein d'idées aussi, tu nous en sélectionnes un, deux. De quoi tu parles ?
Alors, ça y est, d'un coup, j'ai eu le déclic, là. Ça y est, j'ai eu l'illumination.
Ça tombe bien.
Vous parlez de la revue Core Objet Image numéro 3 qui va sortir au mois de mars. C'est une revue qui est éditée par le TJP, qui est donc un CDN à Strasbourg.
Un centre dramatique national, le TJP, étant le théâtre jeune public ?
Et non, il faut plus dire ça.
Hein ?
C'est terrain de jeu protéiforme,
En tout cas, centre dramatique national à Strasbourg.
Et là, sa particularité, c'est qu'il est dirigé par Renaud Herbin, qui est marionnettiste, et qui a donc, en arrivant en fin 2012, a donc proposé ce projet Core Objet Image, projet qui permettait justement de faire venir dans la maison des chorégraphes, des plasticiens, aux côtés des marionnettistes et de plus en plus des chercheurs. Donc là, notamment, la thématique de la revue, c'est réanimation. C'est Jérémy Damian, qui est un anthropologue et qui est le coordinateur principal de la revue. Et donc, vous allez voir un ensemble de contributions de chercheurs, mais aussi d'artistes autour de cette thématique de la réanimation. Donc, quelque part, comment l'animisme se redéploie, quelles sont ses visibilités dans notre société contemporaine qui se dit naturaliste et à quel point le naturalisme arrive à un point de cul-de-sac duquel il faut vite s'extraire.
La revue, alors on peut la commander sur le site du TJP, Centre Dramatique National à Strasbourg.
Alors
pour
c'est
la
ça,
voir.
Il faut, alors, si vous allez sur le site ressource www.core-objet-image.com, vous allez avoir un petit onglet revue quoi, vous aurez les numéros précédents et vous aurez quelques articles qui sont déjà mis en ligne. Et donc là c'est le print qui sort pour les giboulées de la marionnette, si mes souvenirs sont bons, le 23 mars.
Qui ont lieu, eux, à Strasbourg, les giboulées de la marionnette. Oui. Voilà. Ça fait... Strasbourg-Marseille, c'est pas ce qui est le plus pratique, hein, mais il y a un avion, ceci dit. Hein. Pour ceux qui prennent l'avion, ce n'est pas mon cas, par exemple. Mais, alors, on finit l'émission habituellement par un agenda qui nous est délivré par la délicieuse et sucrée voix de Mélanie Le Gay. Il se trouve qu'elle est à Paris, mais malgré ce, elle a fait ses devoirs comme il faut. Et elle nous a livré un agenda qui va être dit par la non moins délicieuse voix de Julia. Donc Julia, te voilà dans le rôle de la agenda girl dorénavant.
Agenda de mi-février à mi-mars, plusieurs rendez-vous culturels que Mélanie Le Gay est allée chercher pour vous, chers auditeurs et auditrices. Un peu déconnectés du sujet de l'émission, mais pas tant que ça. Considérons que nous pouvons faire aussi des sorties culturelles et numériques, une religion ou, à minima, un art de vivre. Cultivons notre curiosité et notre envie de découvrir. Sa première recommandation s'inscrit dans le cadre de Marseille-Provence 2018 avec Mille et une nuits, proposé par le Bureau des Guides et le collectif Ici Même. C'est le 17 février, excusez-moi, à 18h11 que vous avez rendez-vous à la Friche la Belle de Mai sur le toit-terrasse pour l'inauguration d'un voyage constellaire autour de récits, de fables et de légendes métropolitaines. Habillez-vous chaudement. Sa deuxième recommandation est une exposition au 104 à Paris, « Les fées du hasard ». Cette exposition a lieu dans le cadre de la Biennale Art numérique NEMO et elle présente une variété d'installations qui jouent avec le risque et l'aléatoire de la production avec les machines. Elle lutte ainsi contre l'idée qu'avec les machines, tout est sous contrôle. L'exposition, je suis vraiment désolée, cet agenda ne marche pas, est surprenante, puisant dans les effets naturels de notre monde. C'est jusqu'au 4 mars. Sa troisième proposition est un parcours sonore, un parcours chanson, comme l'annonce le festival Avec le Temps. Ce parcours est à faire en compagnie d'Armel Ita, chanteuse française qui mêle une énergie rageuse et mélancolique sur fond de musique aux touches world, électronique et organique. C'est une belle découverte et une invitation entraînante le samedi 3 mars à 18h à l'Alcazar. Mon quatrième sujet, et le dernier, n'est pas une sortie à proprement dite, mais plutôt une référence à l'actualité. Show de l'espace réalisé par Elon Musk ce 6 février dernier. Le fondateur de Tesla et SpaceX a fait décoller sa fusée Falcon Heavy, chargée d'une voiture électrique, un coupé rouge et à son volant, un mannequin en combi nommé Starman. Ce roadster satellisé dans l'espace relance la conquête de l'univers et livre des images incroyables. Elles sont à voir sur YouTube, à voir et à revoir sur YouTube. Voilà, l'agenda de la clip, c'est fini et heureusement.
Bravo Julia, tu t'en es très bien tirée. C'était pas tout n'était pas très facile. Merci à nos deux invités, Mickaël Cros et Anthony Mazur, d'être venus depuis Toulouse. Anthony, merci à Thomas Ricordo pour sa chronique. Djilali aux manettes, évidemment, merci mille fois. Je crois que l'émission se termine dans les temps. Je vous dis au mois prochain et puis bonne continuation sur les 3-8. Dans la boue,